Ah, mais elle est précoce.
Elle est précoce.
Elle est vraiment précoce.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Isabelle Rouen. Isabelle, en quoi es-tu une atypique du cerveau ?
Bonjour Mélodie, merci de m'inviter au micro du podcast. Moi, j'ai toujours su que j'étais atypique du cerveau, puisqu'en fait, j'ai été testée pendant l'enfance. J'étais petite fille pour sauter la dernière année de maternelle, donc on ne m'a pas forcément donné les résultats du test. Je les ai trouvés bien plus tard dans un placard chez ma maman, mais genre 30 ans plus tard. Mais par contre, on m'a toujours dit, elle est précoce, c'est une enfant précoce. Je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire, ni du coup ce qu'on devenait une fois qu'on n'était plus un enfant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'étais petite fille, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les adultes.
Ce terme d'enfant précoce, souvent, quand on l'entend, c'est oui, d'accord, enfant, mais après...
Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de haut potentiel intellectuel ou de l'acronyme HPI. Et je crois que le terme enfant précoce a quasiment disparu. Mais dans les années 70, parce que je suis une vieille dame et que j'ai 45 ans, c'était le mot qui était usité à l'époque.
Et alors justement, enfant précoce devient adulte, qu'est-ce que tu en as fait ou pas de cette précocité ?
Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je pense que je réfléchis très vite et de manière non linéaire. Donc moi, j'ai un profil de haut potentiel intellectuel avec une tendance de ce qu'on appelle les laminaires. Donc j'ai tendance à me suradapter, ce qui peut être très bien, mais ce qui peut aussi être très pénible parce que je peux aussi trop me suradapter. Donc j'en ai fait pas mal de choses. Ça me sert beaucoup dans ma vie professionnelle actuelle.
Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être dans ta vie pro ?
Alors, je vais peut-être déjà raconter ce que je fais dans ma vie pro. Moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le monde des médias et j'ai changé de vie en 2017. J'ai créé mon entreprise, donc je suis solo entrepreneur et je fais du recrutement sur les métiers de la tech et de la data, donc du recrutement de dirigeants, ce qui demande beaucoup de capacités commerciales et surtout beaucoup de capacités d'écoute pour comprendre à la fois les besoins d'une organisation, les besoins d'un client, d'un manager, d'un dirigeant et les besoins et les aspirations du candidat. Donc ça m'a amené à ça et ça m'a amené aussi à me passionner pour le futur du travail. Et du coup, le fait, alors je ne sais pas si c'est atypique le bon mot, mais le fait d'avoir cette capacité à raisonner vite et d'être touche à tout me permet d'avoir beaucoup de casquettes. J'ai même un képi d'ailleurs, je suis commandante dans l'armée de terre en tant que réserviste citoyenne au sein de la DRH de l'armée de terre. Je suis impliquée dans plusieurs associations interprofessionnelles où je prends toujours les sujets métier, emploi, RH. J'ai publié deux livres sur le futur des métiers pour l'un, sur l'évolution de l'emploi, qui s'appelle Emploi 4.0 pour l'autre. Donc voilà, j'anime un podcast aussi auquel tu es venue au micro il n'y a pas très longtemps. Donc je te remercie de me rendre l'appareil. Donc voilà, l'atypisme permet de toucher à beaucoup de choses et l'entrepreneuriat aussi me permet de toucher à beaucoup de choses. Les deux sont liés en fait.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur le fait de faire plusieurs choses, souvent, ça m'est arrivé d'interroger des personnes qui étaient slasheurs, slasheuses. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, ce besoin de faire plein de choses pour se nourrir. Peut-être c'est ça aussi.
Ah, c'est complètement ça. Moi, je marche à la variété. Et c'est parce que j'enregistre des podcasts, que j'écris des bouquins et que je rencontre des gens que je me nourris, que je me forme. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très bien perçu dans le salariat. Ou quand vous avez un contrat pour un job en CDI à plein temps, à 100%, voire à 200%, c'est compliqué d'être slasher la nuit, les week-ends et d'élever une famille en parallèle. Et c'est vrai que moi, le fait d'avoir basculé dans l'entrepreneuriat en 2017 et du coup de maîtriser mon temps et de décider je prends telle mission, je ne prends pas telle mission, je me forme sur tel sujet, je lance tel projet, a énormément changé les choses pour moi dans la façon de vivre et ça me simplifie beaucoup la vie.
Ce côté dans l'entreprise, c'était pas forcément évident de trouver ma place. Et donc finalement, je me suis fait ma place à mon image. Est-ce que c'est un peu...
C'est tout à fait vrai. Alors après, il y a eu des entreprises où j'ai très très bien trouvé ma place parce que c'est des entreprises qui marchaient à la variété ou qui bougeaient tout le temps. J'ai travaillé notamment 12 ans dans le groupe Havas. Je pense que j'ai fait 4 gouvernances différentes avec des dirigeants différents. J'ai dû faire 7 métiers différents. On m'a proposé plein de projets différents en plus de mon métier qui était des métiers de contact client, hein, de padawan jusqu'à directeur associé. Mais à chaque fois... J'ai toujours levé le doigt et on m'a toujours accordé le fait de pouvoir porter des projets complexes à côté de transformation des talents, des équipes. Je savais déjà qu'un jour, je me mettrais à mon compte. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc je savais déjà qu'un jour, j'évoluerais vers ces sujets-là. Et du coup, c'est vrai que ça m'est arrivé aussi chez d'autres employeurs, mais particulièrement chez Havas, parce que j'ai eu le temps d'évoluer et de faire plein de choses différentes dans une même boîte qui a beaucoup, elle-même beaucoup changé. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple dans des entreprises classiques ou avec des managers très classiques ou pas au fait du sujet, parce que je suis pas sûre que les atypiques du cerveau, comme tu les appelles, soient des gens très simples à manager.
pas toujours. Justement, tu nous parles de ta famille d'entrepreneurs. Comment ton entourage l'a vécu, quand tu as fait ou pas une annonce sur le fait que tu étais HPI?
J'ai jamais fait d'annonce sur le fait que j'étais HPI dans mon entourage. Après, je pense qu'il y en a beaucoup dans mon entourage. Donc, ça a jamais été une grande surprise. Après, moi, je me suis intéressée au sujet du HPI et à l'acronyme HPI beaucoup plus tard. Parce qu'autant, je l'ai toujours su pour moi. Et donc, je n'ai pas ce syndrome du quadra ou du quinquagénaire qui se découvre HPI sur le tard. Autant, effectivement, je ne m'étais pas passionnée pour le sujet avant d'avoir des enfants et d'élever deux enfants. Et du coup, effectivement, ça a amené à en faire tester un en particulier. Et du coup, à lire des choses sur le sujet, à m'intéresser un peu plus au sujet de manière concrète. Et c'est là où j'ai vu qu'en 40 piges, le sujet avait beaucoup évolué, était quelque part devenu à la mode, mais en tout cas, était mieux documenté qu'avant. Beaucoup moins tabou aussi, même si moi c'est entre guillemets peut-être briser un tabou d'en parler au micro. T'en as parlé au micro de mon podcast et c'est là où moi j'ai commencé à en parler publiquement me concernant. Et je suis un peu timide au micro de ton podcast, mais du coup c'est intéressant. Mais ouais, c'est plutôt très bien accepté dans le milieu familial, amical. Ça n'a jamais été un sujet. Et je pense qu'il y en a pas mal dans mon entourage, même si il y a aussi des gens tout à fait typique ou tout à fait classique aussi. Enfin voilà, moi j'aime la variété, donc il y a tout dans ce qui m'entoure, heureusement.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le fait d'en parler, et merci d'oser le faire, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que c'est important aussi de finalement montrer que c'est n'importe qui, c'est tout le monde aussi ou pas, et puis en soi, c'est juste un trait de personnalité comme un autre, et voilà.
Tout à fait. Quand on avait préparé le podcast qu'on a fait toutes les deux il y a quelques mois, j'avais vu la stat que ça concernait une personne sur quatre ou une personne sur cinq.
La diversité cognitive, oui, tout à fait.
Effectivement, sur la diversité cognitive, qui moi m'a interpellée parce que je connaissais pas ce chiffre. Et une autre chose qui m'a interpellée, j'ai positionné mon cabinet de recrutement Colibri Talent sur les métiers de la tech et la data. Et un jour, une de mes profs à l'ESSEC en 2018 ou 2019, donc le cabinet devait exister depuis 2 ans, le pitch devant un parterre de 200 patrons d'entreprise, il dit « Isabelle dirige un cabinet atypique pour profil atypique ». Et ça m'a surpris, et donc du coup on en revient à ce mot atypique, et du coup le positionnement perçu du cabinet, et celui-là, c'est pas du tout un positionnement que j'ai choisi, mais c'est un ressenti, je pense, que peuvent avoir certains candidats et certains chefs d'entreprise. Donc à mes futurs clients et mes actuels clients, je fais aussi des choses très classiques ou très typiques, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse moi et ce dans quoi je pense que je suis bonne, c'est souvent des sujets de création de poste, c'est souvent des sujets de réorganisation, et où le dirigeant se dit, bon là j'ai besoin d'un profil qui est peut-être pas exactement ce que j'ai, je sais pas exactement ce dont j'ai besoin, et c'est là où moi je vais être très très bonne.
D'accord. Et justement, tu parlais tout à l'heure aussi des livres, enfin des podcasts, de tout ce que tu peux faire dans tous tes métiers, on va dire ça comme ça. Est-ce que, selon toi, c'est atypique? Est-ce que c'est quelque chose qui te caractérise? Est-ce que tu pourrais faire autrement? Est-ce que c'est vraiment...
Non, je pense que je pourrais pas faire autrement parce que j'ai besoin de la rencontre et j'ai besoin de nourrir ma curiosité pour me former en permanence. Et du coup, le premier livre, je l'ai écrit pour ça. D'ailleurs, je ne voulais même pas écrire un livre. Je voulais faire 10 interviews de 10 personnes qui créent des métiers du futur et écrire 10 fiches métiers du futur. Ce que j'ai fait pendant tout l'été 2018. Et je m'étais dit, ça fera une com par mois, un article par mois. Ça fait ma com de l'année 2. Et à la fin de l'été, j'avais fait tout ça. Il y avait 100 000 signes. Et je me suis dit, en fait, ce truc-là, c'est un bouquin. Et je l'ai envoyé à 3 éditeurs. Laure-Hélène Akawi chez First m'a dit, oui, on y va. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre qui a très bien marché. Je l'ai décliné dans un observatoire des métiers du futur, qui est une association qui impacte positivement pouvoir public et entreprise sur ces sujets de transformation du travail. Et puis, je me suis beaucoup ennuyée pendant le deuxième confinement. Et puis, j'en avais marre de ne rencontrer personne. Donc, j'ai acheté 2 micros, un Zoom comme toi. Et j'ai commencé à faire des podcasts sur ce futur du travail pour rencontrer des gens. Et puis, j'ai fait un deuxième bouquin. Et en fait, je crois que j'ai besoin de ça parce qu'encore une fois, mon moteur, c'est la rencontre. Les deux livres, ils sont basés sur des interviews. Et donc, en fait, c'est un levier, c'est un moyen de s'ouvrir des portes. Je pense qu'on ne se serait pas connus toutes les deux s'il n'y avait pas eu le podcast, justement. Donc je ne sais pas si c'est atypique ou pas. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à m'en passer.
Et aussi, ce côté en toi qui ressort, c'est le positif. Parce qu'en plus, tu écris sur des choses qui pourraient être anxiogènes. Quand on parle des métiers du futur, on parle des robots, on parle de plein de choses qui génèrent potentiellement du stress. Et toi, tu as toujours ce regard volontairement positif.
Tout à fait, c'est ma marque de fabrique. C'est vrai que ça génère quelque chose d'anxiogène, les robots. Et d'ailleurs, il y a une statistique de la Commission européenne qui dit que 72% des travailleurs européens ont peur que les robots leur volent leur travail. Moi, je défends la thèse inverse. Alors, c'est peut-être pas l'objet au micro du podcast d'expliquer pourquoi avec plein de chiffres, mais en tout cas, ce qui est certain...
Ça donnera envie d'aller en savoir plus.
Ce qui est certain, c'est que la révolution digitale crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit et que les pays les plus robotisés au monde, que sont le Japon et l'Allemagne, sont les pays où le taux de chômage est le plus bas. C'est déjà deux exemples. Il y a plein d'autres chiffres qui le prouvent. Mais au-delà de ça, effectivement, moi, je suis convaincue que pour transformer des gens, pour transformer une société, pour transformer nos pays, pour transformer une organisation, le positif est beaucoup plus efficace. Le sujet, c'est de lever les angoisses, les doutes et les peurs. Quand vous transformez ou quand vous vous transformez, il y a toujours une petite part de blocage, il y a toujours une petite part de « ouais, on y va ». Et il y a souvent une grande part d'incertitude au milieu. Dans des organisations, souvent, c'est 20% de gens qui poussent vers le changement, 20%, 10 à 20% qui bloquent parce que c'est humain et qu'ils ont peur. Et tout le sujet, c'est comment on va faire basculer ceux qui hésitent entre les deux. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé me mettre à la limite de ma zone de confort. Quand je travaille dans des grandes entreprises, que ce soit Facebook, Havas, Renault, je prenais toujours des projets un peu atypiques, un peu en plus, parfois en trop, mais pareil, pour me mettre dans la transformation, et c'est quelque chose que j'adore. Je pense que c'était très fatigant aussi pour mes équipes, parce que ce qu'on a dit que ce n'était pas simple de manager un atypique, je pense que ce n'est pas simple non plus d'être managé par un atypique, même si j'essaie d'être toujours très bienveillante et attachée aux gens et à leurs ressentis. C'est vrai qu'ils me disent « c'est bien, tu aimes être en dehors de ta zone de confort, mais nous on est 20 derrière et c'est pas toujours très confortable non plus ». Donc voilà, tout ça pour dire que oui, ça pourrait être très anxiogène, ce sujet de transformation du travail, mais moi je le vois de manière positive, et s'il y a un mot à retenir dans les statuts de l'Observatoire des métiers du futur, c'est d'impacter positivement pouvoir public et organisation, parce que c'est là que ça joue, c'est, je pense, le positif qui fera bouger les choses. Et je pense qu'on n'est pas très nombreux. Il y a beaucoup de livres très anxiogènes écrits sur ce sujet-là, beaucoup de contenus très anxiogènes, et à mon avis, c'est pas ça qui aide les gens à se positionner, alors qu'on va tous avoir à changer de métier plusieurs fois dans notre vie.
C'est vrai, c'est sûr. Et justement, de ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que le fait d'être atypique, ça aide aussi à changer, à se vivre plusieurs vies, ou en tout cas en avoir plusieurs en parallèle.
C'est possible, en tout cas, le côté qui se suradapte, parce que je pense que c'est vraiment ça qui est atypique dans mon parcours, et cette capacité à me suradapter. J'avais une boss que j'admire beaucoup, qui s'appelle Lina Tagirian, qui m'a dit un jour, t'es un chat. Tu retombes toujours sur tes pattes. On peut te mettre dans n'importe quelle situation commerciale avec un client, un prospect, cramé, pas cramé, compliqué, pas compliqué, le truc retombe sur ses pattes, le sujet retombe sur ses pattes. C'est pas toujours très élégant, c'est pas toujours comme ça qu'on l'aurait fait. Le client est toujours content à la fin. Ça coûte parfois un peu cher en note de frais, mais globalement, à la fin, le truc se résout. T'es un chat. T'es pas simple à manager, mais t'es un chat. Et c'est vrai que ça m'a marqué, parce que je me rendais pas compte à quel point, effectivement, j'étais capable de m'adapter pour structurer et résoudre un problème quel qu'il soit.
Donc oui, ça c'est une force, mais c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience jusqu'à ce qu'on nous le dise. Quoi.
Exactement.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager ? Peut-être un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions ?
Alors un conseil, vous êtes comme vous êtes, vivez-le et vivez-vous avec joie. Appuyez-vous sur vos forces. C'est probablement le meilleur conseil qu'on m'a donné. Je suis une vraie littéraire très mal orientée. On m'a forcée à faire des mathématiques parce que les bons élèves, on les forçait à faire des maths. Je crois que j'ai ramé beaucoup, que j'ai après 10 ans d'anal par cœur pour passer les concours d'école de commerce. Ça ne m'a pas beaucoup servi. Ce qui me sert aujourd'hui et ce qui m'a servi, c'est de m'appuyer sur mes forces, donc cette capacité à s'adapter, ma curiosité, ma capacité d'apprendre à apprendre, mes compétences rédactionnelles qui aujourd'hui me servent dans les différents métiers que je fais. Donc si j'ai humblement un conseil à partager, c'est servez-vous de vos forces. Ça marche beaucoup mieux que d'essayer de compenser péniblement ses faiblesses. Et puis en plus, en général, c'est beaucoup plus joyeux.
Et d'ailleurs, par rapport à se suradapter, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend lui aussi plutôt négativement parfois en parlant de faux self. Mais toi, ce que tu dis vraiment, ce qui est important, c'est cette capacité finalement d'adaptation, mais tout en restant soi-même, et parce que c'est ça qui va apporter du...
Alors, je pense que moi, je l'ai vécu effectivement toujours en étant moi-même, et j'ai pas de problème de faux self ou de faux masque. Là où ça a un défaut, c'est qu'effectivement, à force de se suradapter et de vouloir s'adapter à l'autre, je mets pas forcément de limites en termes de temps. Et du coup, ce type de profil-là sont des profils qui ont tendance au burn-out. Moi, je n'ai jamais été concernée parce que j'ai eu la chance de toujours m'arrêter à temps, parfois un peu à la limite du précipice, mais j'ai eu la chance d'être très bien entourée, notamment par ma famille et mon mari qui m'ont entendu. Non, mais là, tu déconnes, tu vas couper un ou deux trucs et puis tu vas arrêter de bosser la nuit et le week-end. Mais c'est vrai que le fait de se suradapter peut provoquer ce type de dérive. Aujourd'hui, je sais très bien dire non dans le cadre professionnel et ne pas prendre une mission ou ne pas prendre un projet parce que j'ai pas la bande passante ou parce que je me dis que je suis pas forcément la bonne personne et que ce que je veux, c'est de bien livrer, voire surlivrer. Donc, je prends que des choses où je sais que je mets du positif. Mais c'est vrai que la suradaptation, c'est à la fois une force, mais il faut savoir les bornes. Donc, moi, ça n'a jamais été un sujet de faux self, mais ça peut être un sujet de gestion du temps et de gestion de la charge de travail.
Merci beaucoup Isabelle, je pense que ça donnera matière à réfléchir et de façon positive, et ça c'est vraiment important de terminer là-dessus je pense.
Merci à toi Mélodie pour l'invitation et belle journée à tous.
Et ben merci, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.